En médecine, ou disons en ingénierie des matériaux, quand il y a un truc qui tourne pas rond, on s'attend toujours à une précision clinique, non?
Ouais, un diagnostic clair.
Voilà, c'est ça. Par exemple, une poutre métallique cède sur un pont. Les ingénieurs arrivent, ils passent le métal aux rayons X, trouvent une microfracture évidente, pointent le doigt dessus et disent genre voilà, la faiblesse structurelle, elle est exactement ici.
Ah bah, c'est le grand confort de la science des matériaux, ou même de la biologie. C'est binaire, ça a cassé ou ça a pas cassé. Et on va pas se mentir, l'esprit humain adore ça.
Tellement.
On a ce besoin viscéral de rendre les choses visibles, mesurables et par-dessus tout super faciles à catégoriser dans des petites boîtes bien étiquetées.
Exactement. Le problème, c'est que quand on délaisse le métal et les os pour se pencher sur la nature humaine, sur les origines même de notre moralité et de nos failles, cette belle machine à rayons X, ben, elle fonctionne plus du tout.
L'image devient incroyablement floue, ouais.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et aujourd'hui, mercredi 15 juillet 2026, on plonge dans l'un des textes les plus scrutés de l'histoire humaine. Je parle bien sûr du chapitre 3 de la Genèse.
Le fameux récit de la chute.
Le récit de la chute. Et pour cette nouvelle exploration, on se base sur les notes académiques de la 11e conférence de Robert Vanoy. Sauf qu'on va pas lire ça comme un simple conte pour enfants.
Loin de là, non.
L'idée, c'est d'aborder ce texte comme un rapport d'ingénierie sur un test de résistance, un stress test appliqué directement à la moralité humaine. Mais avant d'entrer dans la mécanique du récit, je crois qu'il faut poser un cadre clair.
Absolument. C'est indispensable d'avoir un cadre analytique rigoureux ici. Ces textes bibliques portent un poids historique et théologique immense. Ils ont littéralement façonné des civilisations entières.
Ouais, l'enjeu est énorme, hein.
Donc notre démarche, pour ceux qui nous écoutent, n'est en aucun cas de valider ou d'invalider les croyances spirituelles qui s'y rattachent. On prend aucune posture dogmatique aujourd'hui.
C'est purement analytique.
Voilà. Notre travail consiste à disséquer la mécanique interne de ce récit. On examine les arguments littéraires, historiques et philosophiques qui l'entourent pour essayer de comprendre comment ce texte tente d'expliquer la condition humaine de base. C'est un regard totalement impartial sur des données conceptuelles.
Le décor est planté, c'est parfait. Et pour comprendre ce chapitre 3, il y a d'abord une prémisse philosophique majeure qui remet en question pas mal d'idées reçues, je trouve.
Ah oui, laquelle?
Ben, on a souvent tendance à penser que nos failles humaines, l'égoïsme, la tromperie, c'est juste, je sais pas, des étapes naturelles de notre évolution psychologique. Mais l'analyse de la Genèse pose un diagnostic radicalement différent.
Ouais, le péché.
Exactement. La transgression n'a rien de naturel ici. C'est présenté comme une anomalie pure et simple.
Et c'est une distinction vitale pour capter la vision du monde de l'Ancien Testament. Si on observe la réalité, l'humanité a toujours lutté avec un paradoxe écrasant.
Lequel?
On est conscient de vivre dans un univers d'une beauté mathématique et physique époustouflante, qui est régi par des lois ultra précises. Et pourtant, notre expérience quotidienne dans cet univers, elle est saturée de souffrance, de trahison et ultimement de mort.
C'est le grand paradoxe, ouais.
Et le récit de la Genèse aborde cette contradiction en posant que cette misère, bah, elle n'appartient pas nativement au monde créé. La transgression originelle, c'est vu comme une intrusion, genre un virus étranger.
Une anomalie dans le système.
C'est ça, une cassure fondamentale qui a provoqué une réaction en chaîne, aliénant l'humanité vis-à-vis du divin, d'elle-même et même vis-à-vis de son environnement naturel.
Ce qui nous amène, bim, directement au cœur de ce stress test, le fameux fruit défendu.
Le point de bascule.
Voilà. Et honnêtement, en préparant cette émission et en lisant les notes, j'ai ressenti un certain scepticisme au début.
Ah bon, pourquoi?
Bah, ne pas manger d'un fruit spécifique, ça semble tellement banal, non?
Mais des penseurs comme le théologien Herman Bavinck mettent le doigt sur un détail fascinant. L'arbre lui-même n'avait absolument rien de magique.
Ah non, il n'y avait pas de poison mortel dans la pomme, enfin, le fruit.
Exact. Bavinck appelle cette interdiction une commande probatoire. En clair, le contenu de la règle était totalement 100% arbitraire.
Et c'est justement ce caractère arbitraire qui fait toute la force du test, tu vois. Si on relie ça à la psychologie de l'autorité, les premiers humains ne devaient pas s'abstenir de manger ce fruit parce que l'interdiction avait un sens logique ou nutritionnel. Ils n'allaient pas tomber malades.
Non, voilà. Ils devaient obéir uniquement par respect pour l'autorité suprême de celui qui avait formulé l'ordre. C'était l'essence même d'un test d'obéissance pure, dénué de toute autre motivation pratique.
Bon, là je me sens obligée de faire un peu l'avocat du diable.
Vas-y, je t'écoute.
Parce que d'un point de vue moderne, ça sonne presque comme de la tyrannie psychologique, ce truc.
Ah, la fameuse objection du piège.
Mais ouais! C'est comme, imagine, on place un énorme bouton rouge clignotant au milieu d'une pièce avec un enfant et on lui dit « Surtout tu touches pas à ce bouton », mais sans jamais lui expliquer ce que fait le bouton ni pourquoi c'est dangereux. Punir l'humanité entière pour une règle qui ne repose sur aucune logique apparente, est-ce que c'est pas un piège vicieux conçu pour faire échouer le sujet au final ?
C'est super fréquent comme objection aujourd'hui. Mais pour bien saisir la mécanique du récit, faut vraiment changer de lentille. Voir ça comme un piège sadique, c'est passer complètement à côté de la nature de la relation décrite dans le texte.
Ok, explique.
Ce fameux bouton rouge, pour reprendre ton analogie, il n'était pas là pour voir à quel moment l'humain allait trébucher, par simple curiosité. C'était un test de positionnement moral absolu.
C'est-à-dire ?
L'arbre s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le fait de manger ce fruit démontrait une volonté délibérée de l'humain de devenir sa propre boussole morale.
Ah, prendre le contrôle ?
Exactement. Prendre le fruit, c'était une déclaration d'indépendance cosmique. C'était dire « je refuse de me soumettre à une définition externe de ce qui est bon ou mauvais, je suis désormais assez grand et autosuffisant pour définir ma propre réalité ».
Donc, c'est l'autonomie morale poussée à son paroxysme en somme, s'arroger le droit de décréter soi-même la vérité.
Précisément. C'est le refus total de la dépendance. Et c'est pour ça que la nature arbitraire de la commande était absolument requise.
Parce que si c'était logique, ça marchait pas.
Bah oui, imagine. Si l'humain n'avait pas mangé le fruit juste parce qu'il savait qu'il était empoisonné, il aurait simplement fait preuve de bon sens instinctif pour sa propre survie.
C'est juste de l'instinct de préservation.
Voilà. Alors qu'en ne le mangeant pas, alors qu'il semblait bon et super appétissant, il aurait reconnu que l'autorité divine primait sur son propre jugement subjectif.
D'accord, je vois. L'enjeu philosophique est clair. La structure du test, elle est en place. Mais le bouton rouge n'a pas été pressé spontanément.
Non, il a fallu un petit coup de pouce.
L'humanité n'a pas juste trébuché dessus par hasard un beau matin. Il a fallu un élément déclencheur externe, un catalyseur. Et c'est là qu'entre en scène le personnage le plus énigmatique du texte, le serpent.
Le fameux serpent de la Genèse.
Le texte dit qu'il était plus rusé que toutes les bêtes des champs. Et là, sans crier gare, il engage la conversation. Et franchement, on frappe un mur de scepticisme massif ici.
C'est clair. Un serpent qui parle rationnellement, c'est très dur à avaler de nos jours.
C'est le point de friction majeur, ouais. Du coup, comment on interprète cette créature rugue ?
Bah, y a une frange importante de l'analyse académique, avec des auteurs comme John Gibson, par exemple, qui propose une lecture très spécifique pour dissiper ce malaise.
Qu'est-ce qu'il dit, Gibson ?
Pour lui, lire ce passage comme un événement zoologique littéral, c'est une erreur de catégorie pure et simple. Il soutient que le serpent parlant est une figure fantastique, une construction parabolique.
Donc une métaphore, une fable.
Exactement. Dans la littérature antique, quand un animal se met à parler, c'est le marqueur universel de la fable.
Ce qui me fait penser, pour appuyer ça, il y a cette fable juive médiévale qui illustre vachement bien cette mécanique littéraire. Je peux la raconter vite fait.
Oui, oui, mais avec le renard et le corbeau, vas-y.
C'est ça. L'histoire raconte qu'un renard hyper rusé et affamé repère un corbeau perché tout en haut d'un arbre. Le renard adorerait se faire un petit repas, mais l'oiseau est bien trop prudent pour descendre.
Le corbeau est malin.
Ouais, il bouge pas. Alors, le renard tente une manipulation psychologique de haut vol. Il s'approche et lui crie « Hé, tu n'as plus besoin de te méfier de moi, le Messie est arrivé, la grande prophétie d'Isaïe est accomplie, le lion va dormir avec l'agneau et le renard vivra en paix avec le corbeau. Descends, on va fêter ça. »
La technique classique de la fausse sécurité.
Totalement. Donc le corbeau écoute, il hésite un peu, mais soudain, au loin, il y a un bruit. Des aboiements féroces d'une meute de chiens de chasse qui foncent vers eux. Le renard commence à paniquer complètement et cherche où se cacher.
Logique.
Et là, le corbeau, amusé depuis sa branche, lui dit « Mais pourquoi tu paniques ? Tu viens de me dire que la prophétie est accomplie et que la paix universelle règne entre tous les animaux. »
Et la chute est géniale.
Le renard lui lance en fuyant « Moi, je sais très bien ce qu'a dit le prophète Isaïe. Mais le problème, c'est que les chiens, eux, ils le savent pas. »
Elle est brillante, cette fable, franchement. Et l'utilisation qu'en fait Gibson est hyper stratégique.
Comment ça ?
Il l'utilise pour démontrer que les Hébreux maîtrisaient parfaitement l'art d'utiliser des animaux anthropomorphisés pour illustrer les travers de la nature humaine.
comme la cupidité ou la ruse.
Voilà, dans cette fable, le renard incarne la manipulation cynique des textes sacrés pour un gain personnel, alors que le corbeau représente la prudence face aux belles paroles.
Et Gibson dit que la Genèse fait pareil.
C'est son argument, oui. Il affirme que l'auteur de la Genèse utilise une forme littéraire familière, un peu comme les fables d'Ésope, pour représenter visuellement la séduction du pouvoir et cette rationalisation interne qui mène à la désobéissance.
C'est vrai que c'est un outil pédagogique redoutable. Ça me fait beaucoup penser à l'industrie de l'animation aujourd'hui.
Genre les films Pixar.
Exactement, les films Pixar. On utilise des animaux ou des concepts anthropomorphisés pour rendre des traumatismes psychologiques ou des dilemmes moraux ultra complexes accessibles et digestes, même pour des enfants. C'est élégant, en fait.
C'est une belle analogie, ouais.
Mais la question qui s'impose direct quand on regarde l'ensemble du corpus biblique, c'est est-ce que cette lecture, aussi élégante soit-elle, s'intègre au reste de la structure ? Est-ce qu'on peut vraiment refermer le chapitre 3 en se disant « Ah, c'était une super métaphore sur les pensées intrusives et puis on passe à la suite ?»
Et c'est précisément là que l'approche purement allégorique se heurte à un mur textuel massif.
Un mur canonique, en gros.
Oui. Si on applique une lecture interne canonique, comme tu dis, la théorie de la simple fable s'effondre. Des théologiens comme John Murray et les notes d'analyse historique de Van Hoy soulignent que les auteurs bibliques ultérieurs n'ont jamais traité cet événement comme une simple métaphore poétique.
Ils le prenaient au pied de la lettre.
L'apôtre Paul, par exemple. Des siècles plus tard, dans ses épîtres aux Corinthiens et à Timothée, il s'appuie sur la tromperie d'Ève par le serpent comme sur un fait historique, factuel et temporellement ancré. Il s'en sert pour construire toute une architecture théologique.
Donc pour eux, nier l'historicité, c'est faire s'écrouler tout le reste.
Pour les auteurs du Nouveau Testament, absolument.
Mais du coup, s'ils prennent cet animal au sérieux, ça soulève un autre problème. John Murray pointe un détail vraiment troublant sur la nature de cette conversation.
Le niveau d'intelligence du serpent.
Exactement. L'intelligence qui se déploie dans l'argumentation du serpent pour convaincre Ève, c'est pas juste intelligent pour un animal, tu vois. C'est méthodique, pervers et au moins égal, sinon radicalement supérieur, à l'intellect humain de l'époque.
C'est le vrai paradoxe à résoudre. Comment un animal terrestre, même le plus rusé du monde, peut-il posséder une intelligence conceptuelle capable de déconstruire un commandement divin ?
Ça colle pas.
Non, ça colle pas. Mais la synthèse des textes ultérieurs, que ce soit l'évangile de Jean, l'épistre aux Romains, et de manière super éclatante l'Apocalypse, apporte une réponse univoque.
Cette intelligence n'appartient pas au règne animal.
Voilà. Elle est identifiée à une entité spirituelle malveillante, Satan. Le livre de l'Apocalypse est hyper explicite. Il parle du dragon, ce serpent ancien qui est le diable. L'intelligence manifestée dans le jardin, elle est métaphysique.
Ce qui crée une image assez terrifiante, en fait. En essayant de visualiser comment une entité spirituelle et un animal physique coexistent dans ce récit, j'en reviens toujours à un concept d'informatique.
Ah, ouais.
Lequel ?
Le matériel piraté.
Le hacked hardware, en anglais. C'est comme si le serpent physique, avec ses écailles et tout, c'était juste l'équipement de base, le hardware, un animal banal du jardin.
D'accord, je vois où tu veux en venir.
Et cette entité métaphysique malveillante, elle a agi comme un malware, un logiciel espion de très haut niveau qui a infiltré ce hardware naturel. Il a pris le contrôle de l'interface, genre les cordes vocales de l'animal, son comportement, pour dissimuler sa vraie nature et balancer son message de corruption à l'humanité.
C'est redoutablement pertinent comme analogie. Et le pire, c'est que ce n'est pas une idée isolée dans la mécanique de l'Ancien Testament.
Il y a d'autres cas de piratage ?
Eh bien, les analystes comparent souvent ça à l'épisode de l'ânesse de Balaam, dans le Livre des Nombres.
Ah oui, l'âne qui parle !
Dans ce récit, c'est Dieu lui-même qui ouvre la bouche de l'animal de bas pour délivrer un message verbal urgent. L'animal n'a pas soudainement décroché un diplôme en linguistique. Hein.
Évidemment.
Il est juste utilisé comme un canal de communication temporaire par une force supérieure. De la même manière, le récit de la Genèse suggère que cette entité ténébreuse a temporairement piraté les facultés du serpent. Le véhicule est biologique, mais le programmateur qui tape sur le clavier, lui, est cosmique.
Ouais, sauf que, attends, il y a une faille majeure dans ce raisonnement, ou en tout cas une énorme injustice.
Une injustice, hein ? Sur quel plan ?
Si le serpent n'était que du matériel piraté, un simple microphone biologique ou une marionnette forcée d'agir contre sa volonté, pourquoi c'est lui qui subit les conséquences dévastatrices à la fin ?
Ah, la malédiction des animaux !
Oui, le texte décrit une malédiction physique qui s'abat directement sur le serpent, le forçant à ramper et à manger la poussière. Pourquoi le tribunal divin punirait-il le pauvre microphone physique au lieu de s'en prendre exclusivement au hacker qui l'a utilisé ?
C'est vrai que c'est une objection hyper légitime sur le plan de la justice individuelle, telle qu'on la conçoit nous. Mais l'analyse de Van Way souligne que la malédiction a une dimension structurelle.
C'est-à-dire ?
Premièrement, le texte classe explicitement le serpent parmi les bêtes des champs, ce qui confirme que sa nature de base est bel et bien animale. La condamnation à ramper sur le ventre et à manger la poussière au passage, c'est une figure de style oriental classique pour désigner l'humiliation et la défaite, pas un vrai régime alimentaire. Bah, ça implique une altération physique réelle de la créature.
Donc une dégradation de son état original.
Exactement. L'idée théologique ici, c'est que lorsqu'un instrument physique est utilisé pour perpétrer une rébellion cosmique de cette ampleur, l'instrument lui-même s'en trouve vicié, corrompu jusqu'à la moelle.
Comme si le matériel gardait les séquelles du virus.
C'est tout à fait ça. La dégradation physique du serpent devient le monument permanent, le stigmate visible dans la création de cette tragédie invisible. Mais, et c'est là que ça devient fou, ça implique par déduction logique qu'avant cette altération, le serpent possédait une anatomie et une majesté complètement différentes.
Une majesté perdue. C'est fascinant. Et ça m'amène à un détail linguistique qui est sans doute l'élément le plus dingue de toutes ces notes.
Vas-y, je suis sûr qu'on pense au même.
On a parlé de l'intelligence supérieure du pirate. Mais le texte original, en hébreu, dès le premier verset du chapitre 3, décrit le serpent lui-même avec un adjectif très spécifique, le mot « Arum.
Arum, ouais.
C'est un pivot linguistique essentiel.
Généralement, dans nos Bibles modernes, c'est traduit par rusé, subtil ou astucieux. Tout à fait. Mais l'analyse linguistique approfondie de l'hébreu ancien démontre que ce terme porte une formidable ambiguïté. Il fonctionne sur une vraie corde raide sémantique.
Comment ça ?
Dans d'autres livres bibliques, comme les Proverbes par exemple, ce même mot, arum, est utilisé pour décrire une qualité super positive. Il désigne l'homme prudent, réfléchi, avisé, celui qui anticipe le danger, c'est une marque de grande sagesse.
Ok, donc c'est positif.
À la base, oui. Mais avec le temps, et selon le contexte, il peut glisser vers une connotation très très sombre. Le manipulateur, le sournois, celui qui utilise son intelligence pour tromper.
C'est une observation psychologique vertigineuse, je trouve. La ligne de démarcation entre une intelligence louable, la stratégie, la prudence, et une intelligence destructrice, donc la manipulation cynique, bah, elle est fine comme du papier à cigarette.
C'est exactement ça. Une intelligence brillante, si tu lui enlèves son ancrage moral, ça devient l'outil d'ingénierie sociale le plus dangereux qui soit.
Et c'est la tragédie que le texte met en lumière.
Des commentateurs comme Paul vont bien sûr insister sur le versant négatif, pour dénoncer la ruse toxique qui a séduit l'esprit humain. Mais le fait que l'auteur de la Genèse choisisse de maintenir cette ambiguïté initiale du mot « arum », ça suggère un truc puissant.
Que l'animal était incroyable à la base ?
Avant d'être piraté, oui.
Ouais.
Le serpent était probablement l'une des créatures les plus exceptionnelles de la création, dotée d'une prudence et d'une intelligence animale remarquable. C'était une qualité magnifique.
Ce qui rend la chute de l'animal d'autant plus dramatique au final. C'est la corruption d'un sommet de la nature, la perversion d'un truc qui, à l'origine, forçait le respect.
Absolument. Et tu vois, en prenant un peu de hauteur sur tous ces éléments, on réalise à quel point décortiquer ces textes va bien au-delà de la simple histoire religieuse antique.
Ça touche à notre condition, quoi qu'il arrive.
Que l'on soit croyant, agnostique ou athée, ce récit, c'est une radiographie de la tension humaine universelle. Cette volonté viscérale de déterminer par nous-mêmes ce qui est bien ou mal, l'illusion de l'autonomie totale face à l'autorité morale.
Et comment l'intelligence rationnelle peut justifier la pire des transgressions.
Voilà. C'est un débat qui n'a pas pris une ride. On le retrouve au cœur des débats sur la bioéthique moderne, dans la philosophie du droit contemporain ou même dans les neurosciences sur la prise de décision. Ce conflit entre l'humilité et le besoin de contrôle, c'est l'invariant de l'expérience humaine.
C'est indéniable. On pensait analyser le stress test d'un texte ancien et on finit par examiner le stress test de notre propre psychologie moderne. Et la faille structurelle identifiée, c'est toujours la même, ce besoin désespéré d'être notre propre Dieu.
Un besoin qui coûte cher.
Très cher. Mais avant de clore cette exploration, il y a un tout dernier point, presque une note de bas de page dans les analyses de Van Way, qui me hante un peu et que je voulais partager à ceux qui nous écoutent.
Quelle est cette fameuse note ?
En examinant le déroulement de la conversation dans le jardin, les analystes font remarquer une chose stupéfiante. Face à ce serpent exceptionnellement intelligent, face à cet animal majestueux qui vient soudainement entamer un débat philosophique de haut niveau avec elle, Ève ne montre aucune trace de surprise.
C'est vrai.
Aune faisait partie de l'ordre normal des choses, tu vois.
C'est un silence textuel lourd de sens, en effet. Le texte ne mentionne aucun étonnement de sa part.
Ce qui m'amène à une réflexion hyper troublante pour terminer. Qu'est-ce que ça implique sur la nature de la hiérarchie originelle du monde juste avant ce point de rupture ?
C'est une sacrée question.
Si l'esprit humain primitif n'était pas surpris de tenir une conversation complexe avec le règne animal, à quoi ressemblait véritablement cette réalité originelle qu'on aurait perdue ?
Une réalité où l'homme et l'animal partageaient peut-être le même langage.
C'est ça. Où se situait exactement à l'origine la frontière entre nous et le reste de la nature, avant que l'anomalie ne vienne brouiller définitivement les lignes de la création ? Je laisse notre auditoire méditer sur cette image fascinante. Ce fut un immense plaisir de naviguer dans ces eaux philosophiques avec vous aujourd'hui.
Le plaisir était pour moi. Merci pour cet échange.
Merci à tous de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur des textes anciens. Prenez grand soin de vous et surtout gardez l'esprit grand ouvert.